C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Allez, il est temps de se mettre au travail. Surtout aujourd'hui, je vous emmène dans une usine merveilleuse. Voici Fantastic Fabric, le nouveau jeu de Joseph Erchen et Justin Folker, localisé en France par les Lucky Dot Games. Alors Fantastic Fabric est un jeu de placement de dés pour 1 à 5 joueurs. Chaque joueur va recevoir un plateau au siège de son entreprise où il va placer ses ouvriers représentés par des dés dans différents étages. Alors il y a la mine, il y a le générateur et il y a la recherche. Votre but, bien entendu, c'est de marquer le plus de points en construisant des bâtiments de valeur et en fabriquant des biens. En début de partie, on place des jetons outils dans une rangée et on va poser dans le marché 4 cartes prestataires associées et 4 cartes plans en dessous. Alors chaque joueur va recevoir ses 4 cartes plans, hein, tous ses dés à sa couleur, 2 énergie et puis un métal. Alors voilà, on est prêt à jouer. À chaque tour, il y a une phase de marché et une phase de travail. Pendant la phase de marché, bien chaque joueur fait son marché. Hein. Il peut prendre une carte de plan du marché gratuitement, et où il peut également engager un entrepreneur. Mais là, c'est pas gratuit. Hein. Pour engager un entrepreneur, vous devez défausser de votre main une carte plan qui correspond au jeton outil au-dessus de la carte. Vous voulez par exemple l'entrepreneur où au-dessus il y a le jeton vert avec la clé à main. Dans ce cas, bien vous pouvez le prendre que si vous défaussez une carte plan de votre main avec le même symbole. Une fois que tous les joueurs ont fait cette action, on passe à la phase du travail qui est simultanée. Et oui, il est temps d'envoyer vos ouvriers bosser. Alors tout le monde lance ses dés, vous placez ensuite vos dés sur votre plateau personnel. Je vous ai dit qu'il y avait 3 étages, donc avec 3 emplacements. Si vous posez des dés dans la section recherche, bah peu importe la valeur, hein, vous piochez une carte plan pour chaque dé placé. Si vous placez des dés dans le générateur, bah là ils doivent être de valeur 1, 2 et 3 et vous gagnez une énergie égale à la valeur du dé placé. Bien entendu, hein, si vous placez un 1, bah vous gagnez une énergie. Si vous placez un 2, vous gagnez 2 énergies. Et si les déplacés sont dans la mine, ils doivent être de valeur 4, 5 et 6. Et là, vous gagnez un métal pour chaque dé placé. On peut aussi avoir des bonus, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Chacun récupère tout ce qu'il a obtenu pour construire un plan à partir de votre main. Vous devrez dépenser donc les ressources affichées dans le coin supérieur gauche de la carte et défausser une deuxième carte plan qui a une icône d'outil correspondante. Par exemple, pour construire la salle de sport, parce que j'aime bien faire du sport, vous devez défausser un autre plan avec l'icône de clé verte et dépenser un métal. Il y a plusieurs types de bâtiments, vous verrez. Il y a les bâtiments de formation qui vont permettre de manipuler des dés et de changer les dés. Les bâtiments utilitaires qui vont produire des ressources, qui vont permettre de gagner de l'énergie ou du métal. Et puis les bâtiments monumentaux qui, eux, vous rapportent des points de victoire, parce que c'est quand même ça aussi qui est important. Les bâtiments de production, ils produisent des biens, et il y a des bâtiments spéciaux avec divers effets qui sont plutôt pas mal. Alors pendant la phase de travail, vous pouvez effectuer vos actions dans n'importe quel ordre. Vous pouvez créer des plans, activer des effets de construction et utiliser votre plateau de joueur pour gagner des cartes et des ressources. La plupart des bâtiments ont un coût d'utilisation, que ce soit en ressources, en cartes ou en dés. Pour les dés, la carte indiquera généralement le nombre requis. Vous pourriez avoir besoin par exemple d'une paire de dés correspondants ou d'un seul dé d'une valeur particulière, voire de 3 dés qui atteignent un total particulier. Alors la phase travail se termine lorsque chacun a terminé son travail, ses actions. Les joueurs ont le droit de garder jusqu'à 12 ressources au total et 10 cartes de plan. Le reste, il doit être défaussé. Et puis un nouveau tour commence. La fin du jeu est déclenchée lorsqu'un joueur a produit 12 points de marchandises ou construit 10 bâtiments. On fait le total des points sur les biens et sur les bâtiments. Le score le plus élevé, l'emporte. Fantastic Fabric dispose également d'un mode solo, je vous laisserai découvrir. Faites le bon choix pour récupérer les bons prestataires et récupérer plus de dés afin de comboter au maximum et d'engranger les points. A mon avis, ce jeu, vous risquez bien d'en entendre parler. Alors oui, c'est sûr, c'est un jeu où vous avez l'impression d'être dans votre entreprise, au travail. Mais la seule différence, c'est que ici, vous jouez et vous ne travaillez pas. Allez, d'ici quelques instants, on parle d'un autre jeu. On va partir dans de l'escape game avec Vianney de Terre de Jeux à Rennes.
C'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Et on discutait hors antenne avec Vianney, du coup, c'est parti. Salut Vianney. Je me suis fait avoir.
Salut Mathieu, salut à tous et tous. Oui, en effet, on s'est fait avoir.
Vianney, donc, on parlait de jeu forcément, et aujourd'hui, tu vas nous parler d'Escape Game.
Ouais, je voulais prendre un petit temps parce que c'est vrai que c'est une mode qui commence à traîner. Hein. On parle presque plus de ouais, maintenant c'est un style de jeu. Hein.
Ouais.
Ça a existé il y a très longtemps. Ça a commencé sur PC avec les point and click. On en a vu un florilège de sorties de vrais escape games un peu partout dans le monde, où on peut faire des parties à plusieurs, en vrai, dans une vraie pièce, avec un vrai décor et tout. Et du coup, le monde du jeu de société s'y est mis de manière plus poussée il y a 5 ans, je dirais, 2016-2017, avec deux porte-étendards que la plupart des gens connaissent, Unlock et Exit.
Bien sûr.
Unlock pour le Cocorico, un jeu de Cyril Demec, donc un français, édité par les Space Cowboys, une maison d'édition française, et toujours avec des scénaristes français, donc un truc un peu fait maison.
D'ailleurs, il y a le 10e qui arrive, je crois, hein.
Oui. Tous les 6 mois, il y en a un qui sort. Tous les 6 mois, c'est extrêmement attendu. Et le prochain a la particularité d'être sur des univers de jeux de société.
Ouais.
Donc, étonnant. Sur Mysterium, les aventuriers de Braille et Pandémique. Donc, on attend le crossover pour voir ce que ça va donner. Ça va être rigolo. Mais je commence en parlant d'Unlock, mais je voulais pas parler d'Unlock.
Tu vois.
Mais il faut faire l'historique parce que c'est important. Il y a un autre jeu qui est sorti du coup, mais donc outre Rhin, en Allemagne, Exit, qui est un jeu de Inka et Marcus Brand, deux auteurs qui ont déjà été plusieurs fois primés, qui sont très réputés pour plein de styles de jeux différents.
Ils ont fait, Andor Junior.
Ouais, carrément, ils me.
Et puis
ils ont bossé avec Menzel là-dessus, c'est possible.
Ouais. Et j'ai et leur dernier là, qui arrive à la fin du mois, c'est Recto Verso.
Ouais, il y a plein. Et alors, très honnêtement, je suis pas au fait de leur ludographie. Ils sont extrêmement prolifiques. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Très souvent, très qualitatifs. Souvent, quand c'est signé Inka et Marcus Brand, tu peux être sûr que c'est bien. C'est vraiment des très bons auteurs. C'est des bons auteurs. Leurs enfants sont des bons auteurs. Puisque leurs enfants ont fait Mytho.
Ah oui, d'accord, c'est eux qui ont fait Mytho. Ah, excellent.
C'est un gros délire. C'est vraiment des pointures, je trouve. Donc, ils ont sorti un jeu qui s'appelle Exit. Aujourd'hui, en France, on doit avoir une quinzaine de scénarios qui sont sortis jusqu'ici. Mmh. Sachant que commercialement, ça se présente différemment d'Unlock, puisque chaque boîte est indépendante, c'est un seul scénar. Donc, c'est pas exactement... il y a 15 boîtes, mais en fait, on a moins de scénarios qu'Unlock, puisqu'on en est à 10 boîtes d'Unlock et donc 30 scénars.
Avec du matériel qui se détruit, Exit, hein.
Alors, la particularité d'Exit, effectivement, c'est ça, c'est que c'est un jeu qui est vraiment pas rejouable dans la mesure où on va être amené à altérer le matériel de jeu. Je parle de ces jeux-là, mais je rentrerai pas dans le divulgachage, dans le spoil. Il y a des raisons pour lesquelles on détruit le jeu pour résoudre les énigmes. C'est marqué derrière la boîte qu'on sera amené à annoter, plier, déchirer des éléments du jeu. Ça rend les énigmes à l'intérieur souvent très original, et ça sort des sentiers battus de ce qu'on a pu voir sur la grande majorité des jeux d'escape game, parce qu'ils se permettent autre chose. Pour ma part, c'est une expérience, je trouve, absolument grandiose. La plupart des exits sont très réussis, il y en a quelques-uns d'un peu moins bien, mais la majorité sont vraiment excellents. Et là où c'est intéressant, et je voulais en parler, c'est que c'est une expérience qui est vraiment différente de ce qui est proposé ailleurs des escape games. C'est-à-dire que la majorité des escape games aujourd'hui qualitatifs se concentrent sur une expérience narrative. C'est le cas d'Unlock, hein, où t'es plongé dans un univers, c'est ultra immersif, t'es à fond dans l'histoire.
Ouais.
Et bien souvent, les énigmes sont en fait assez paradoxalement au second plan. Les énigmes sont cool, elles sont bien, mais il y a rien de transcendant où tu te dis « Oh là là, j'ai jamais vu ça avant, c'est bouleversant ». T'es plus sur un truc de « C'est plaisant, je résous des énigmes et j'avance dans ma petite histoire ». Et Exit, c'est parfaitement l'inverse. Exit, la narration, elle est proche du néant. Le premier opus, c'était, je crois, t'es enfermé dans une cabane abandonnée après avoir fait une panne d'essence à côté de cette cabane. Tu rentres, la porte se ferme, t'entends un rire machiavélique qui résonne, et t'as une heure pour sortir de cette cabane, et tu sais pas trop pourquoi tu résous des énigmes. C'est un peu nul comme scénario, mais en fait, le cœur du jeu, il est pas là, il est pas dans l'histoire, on s'en fout. Il est dans les fameuses énigmes qu'on va résoudre pour sortir de cette cabane.
Ouais.
Et les énigmes sont, il y a vraiment, alors il y a des énigmes classiques, évidemment, tout n'est pas extrêmement original, mais il y a des énigmes où ils sont allés chercher loin, de plus en plus, c'est-à-dire que les premiers opus étaient déjà pour l'époque très forts, et dans les derniers opus, ils vont vraiment chercher encore des idées où même, sans rentrer dans le divulgachage, je me suis posé beaucoup de questions sur comment ils avaient pu réellement produire le jeu pour que ce soit possible.
Ouais.
C'est vraiment impressionnant, ça joue sur plein de petits détails, c'est très très riche. La gamme s'est étoffée là tout récemment, et c'est pour ça que j'en parlais, d'un nouveau type d'exit qui est le Exit Puzzle, qui vient en fait ponctuer les énigmes par des puzzles. On a 4 puzzles à faire.
Ouais.
En gros, on va faire 2-3 énigmes, un puzzle, 2-3 énigmes, un puzzle, 2-3 énigmes, un
d'accord.
puzzle.
D'accord.
Et à chaque fois, le puzzle est au cœur des énigmes.
D'accord.
Donc on va regarder.
Est-ce qu'on est un petit peu Vianney comme les puzzles de Ravensburger qu'ils ont sortis il y a quelques temps?
Alors je ne dirais pas grand chose sur la qualité des puzzles Ravensburger. C'est des très chouettes puzzles. Par contre, les énigmes des puzzles Ravensburger sont vraiment bas du front. on peut parler d'énigmes, je dirais, de commerciales, on va dire, de trucs qu'on a toujours vu ailleurs et avant dans plein de milieux, dans les bouquins d'énigmes qu'on pouvait trouver dans les grandes surfaces. C'est très honnêtement, ceux que j'ai fait, les énigmes m'ont vraiment déçu. Le puzzle était très agréable à faire, mais les énigmes n'étaient pas fous.
Ouais.
Et c'est assez différent, c'est-à-dire qu'un puzzle Escape de Ravens, tu fais ton puzzle 1000 pièces, et puis après on te dit,
c'est là que tu cherches
les mystères
ouais.
qu'il y a sur le puzzle. Voilà, et puis si tu les trouves, tu les trouves, tu les trouves pas, tu les trouves pas. L'exit puzzle, c'est vraiment un exit, c'est-à-dire que t'as un espèce de scénario, tu vas résoudre des énigmes, mais en fait, on va te dire par moment, bah là, la prochaine énigme, fais le puzzle, parce que tant que tu l'as pas fait, tu pourras pas résoudre la prochaine énigme. Et en fait, c'est vraiment intelligent parce que ça crée comme une respiration mécaniquement d'un point de vue game design, c'est très intelligent. Comme tu te fous le cerveau à penser à des énigmes, en fait, pendant 10 minutes, un quart d'heure, tu vas faire un puzzle. Alors, c'est pas forcément reposant, un puzzle, mais c'est pas du tout la même manière de réfléchir. T'es
d'accord.
Plus sûr. Et du coup, c'est intéressant parce que tu oscilles entre deux phases de jeu. Et finalement, quand tu repars sur les énigmes, t'es super content. Quand tu arrives sur un puzzle, t'es ah, cool. Alors, évidemment, si vous aimez ni les énigmes, ni des puzzles, c'est pas fait pour vous. C'est un intérêt. Mais c'est vraiment très chouette. C'est très plaisant. Et moi, j'ai trouvé que c'était pas du tout des puzzles, mais bien des exits dans lesquels on fait des puzzles.
D'accord.
C'est vraiment très intelligent. Moi, j'ai tout fait. Hein. Je suis un gros fanat de skate game en général. Et sur un plateau et en jeu de cartes, j'ai vraiment tout fait en exit et en unlock et d'autres. Et vraiment, les exits sont quali. Mention spéciale pour un exit qui est un peu différent des autres, qui est un exit qui dure 2 heures au lieu d'une. Alors, forcément, hein, on peut aussi bien galérer et le faire en 2h30, c'est pas grave. Moi, je crois que j'ai mis plus de 2 heures, de toute façon. C'est les catacombes de l'effroi, qui est donc un peu plus cher que les autres, et qui est vraiment extraordinaire. Pour ma part, c'est probablement un des meilleurs jeux d'énigmes que j'ai fait.
D'accord.
Plusieurs à penser la même chose. Je crois que Baptiste au passe-temps, notamment, disait la même chose. Dans la boutique, tous ceux qui l'ont fait, on est tous d'accord. La plupart des clients qui sont revenus auxquels j'avais dit ça m'ont dit « Ah bah oui, clairement, c'est la folie. Ça vaut vraiment le détour. » Le seul défaut, c'est que si c'est le premier que vous faites, bah vous faites le meilleur direct.
Moi, ah oui.
J'ai tendance à dire « Faut garder le meilleur pour la fin. » Mais c'est vraiment, c'est une gamme qui vaut le détour. Si on aime un peu l'originalité, être surpris et s'obliger à penser différemment, il y a vraiment de ce que moi j'appelle des effets waouh, des effets de « Ah, excellent, c'est ça la solution de l'énigme !» Mais c'est dingue
ouais.
Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment hyper plaisant.
Est-ce que
et
du
à
coup,
chaque fois, dans chaque boîte, ils l'ont.
Est-ce que du coup, s'il y a du puzzle maintenant, le matériel se détruit toujours ?
Ouais, bien sûr,
ouais.
Ça reste un exit.
Il y a toujours du matériel qui se détruit avec les puzzles.
Ça reste un exit, faut partir du principe que tu vas casser ton matos, mais tu sais pas comment.
Ouais.
Faut partir aussi du principe que si vraiment tu ne veux pas du tout casser ton matos parce que t'as pas envie de vivre cette expérience éphémère, tu peux le faire si t'as un scanner sous la main.
Ah oui.
Nous, on l'a fait sur les 3 premières boîtes, on a scanné plein de trucs pour éviter de casser la boîte pour que tous nos collègues puissent jouer aux premiers opus.
Bien sûr.
On l'avait fait. C'est un peu chiant, mais ça se fait.
Mais ça se fait.
Il y a certains opus, par contre, j'attire vraiment l'attention à certains opus où ce sera pas possible du tout. Il y a des choses qui ne sont pas du tout possibles de reproduire.
Ah ouais, c'est une fois, quoi. Et puis après, mais t'as passé un bon moment.
Bah, moi, je compare vraiment ça à n'importe quelle œuvre culturelle qu'on consomme une fois. Je compare ça à visionner un film, lire un livre, aller au cinéma. En fait, en pratique, quand t'achètes un livre, normalement, tu vas pas l'acheter pour le relire 20 fois.
Mais non.
Un jeu de société, tu le fais, parce que c'est comme ça, on les achète, on les rejoue. Ça, c'est un nouveau type de jeu, c'est les jeux jouables qu'une seule fois. En fait, moi, je les compare vraiment à des bouquins, des films, les machins. C'est la seule différence, c'est qu'après, tu n'as pas d'intérêt à posséder l'objet une fois que tu l'as utilisé, quoi.
Ouais.
Mis à part à faire un tableau de chasse dans ton escalier, moi, c'est ce que je fais à la maison, on les affiche.
Ça fait de la place aussi dans ta ludothèque.
Ouais, ça, c'est un problème de geek, ça.
Merci beaucoup, Vianney. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, à partir de la semaine prochaine, c'est un petit peu spécial parce que c'est Noël qui va bientôt arriver. Donc, tu vas nous faire un top, quoi.
Ouais, sans parler d'un top, parce que j'aime pas l'idée de dire que ce sera les meilleurs jeux, mais des trucs que nous, on conseille.
Voilà, ouais, c'est ça.
Selon un type de... Voilà, des choses chouettes. Le top, c'est toujours compliqué parce que... Ça veut tout et rien dire. Mais
donc on parlera certainement d'Happy City, hein, on est d'accord.
probablement Living Forest aussi.
Living Forest, moi, très très bon Living Forest.
Ouais, carrément.
Il y a plein de choses, mais on va pas en parler maintenant puisque c'est pas le moment.
Ouais, et puis du coup on en parlera pas. Living Forest et Happy City, c'est fait. Non, c'est quoi.
Merci Vianney, à la semaine prochaine.
Salut.
Salut.